Donc voilà, je me suis déjà un petit peu présentée, effectivement. Je vais peut-être juste ajouter quelque chose par rapport au CNEF, hein. C'est qu'aussi sur la table de publication, vous verrez la campagne « Libre de le dire ». Donc c'est une campagne d'information, une campagne pédagogique mais à forte connotation juridique que le CNEF a engagée depuis l'année dernière et qui consiste à faire le point sur les conditions du témoignage chrétien dans différents contextes. Donc on a cet ouvrage « Libre de le dire au travail ». Il y a aussi le contexte de l'école, de l'espace public et de l'université. Et puis un livre de fondement, vous trouverez ça sur la table des publications. S'il faut faire un chèque, eh bien faites-le à l'ordre du CNEF, C-N-E-F. Et puis on verra à partir de là. Donc c'est vrai qu'une de mes missions principales est de pouvoir réfléchir, sécuriser, informer et aussi faire campagne autour de la liberté d'expression des chrétiens. Alors évidemment, aujourd'hui, vous êtes assez nombreux, vous êtes tous différents. J'imagine que chacun est venu avec une petite question particulière. Liberté de parole, liberté même vestimentaire, de gérer son temps. Voilà, évidemment, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à votre question. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va brosser un tableau qui va vous permettre de comprendre des grands principes juridiques concernant la liberté de religion des salariés dans l'entreprise privée. Alors, j'ai entendu que certains étaient peut-être dans d'autres contextes, mais j'ai quand même axé sur l'entreprise privée, puisqu'on est le réseau entreprise aujourd'hui. Et effectivement, j'ai un peu le mauvais rôle de la journée, c'est-à-dire de vous parler de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, des risques, de la faute professionnelle, de la sanction, etc. Donc voilà, c'est un petit moment qui sera peut-être agréable, plus désagréable, et au passage, évidemment, de vous fournir un mini cours de droit. Donc voilà, excusez-moi, mais c'est ce qui m'a été assigné. Je précise aussi voilà, que je vais parler surtout du contexte de l'entreprise. Je vais parler surtout des questions liées à la foi chrétienne. Mais évidemment, vous pensez bien que la loi et la jurisprudence voilà, embrassent des questions concernant d'autres religions, notamment le signe religieux. Et puis, on m'a demandé aussi de faire un point sur le contexte de la laïcité. Donc je tâcherai d'enlever certaines confusions autour de la laïcité. Alors, chrétien dans son travail, jusqu'où dire ou ne pas dire ? On voit bien qu'il s'agit de mettre en balance plusieurs intérêts. Alors d'une part, au niveau des libertés fondamentales, le chrétien, évidemment la liberté de religion, comprend celle de manifester ses convictions et aussi de vivre en conformité avec ses convictions. Évidemment, ça inclut la liberté d'expression. Mais lorsque vous êtes au travail, vous êtes dans un cadre particulier, et donc l'autre intérêt, en présence, c'est la bonne marche de l'entreprise. Les contraintes du travail, qui sont économiques, logistiques, de fonctionnement des services. Et puis ensuite, au travail, on est en général dans un cadre relationnel, on l'a entendu aussi par Nicolas. Et donc il y a d'autres personnes qui ont droit aussi à leur protection de leurs propres droits. Que ce soit vos collègues, les subordonnés, les supérieurs ou les clients. Donc on a un contexte où il y a plusieurs zones d'intérêt. On ne peut pas défendre que le chrétien, puisqu'il y a d'autres intérêts en présence. Alors la question, elle est évidemment d'actualité, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des grandes affaires qui portent justement sur l'expression religieuse dans le contexte professionnel. Elles se sont focalisées surtout sur les questions du port du voile islamique. Alors, pour ne pas les nommer, voilà, il y a l'affaire Babylou, on y reviendra, 2013-2014 devant la Cour de cassation. Une employée de crèche qui a été licenciée parce qu'elle ne voulait pas ôter son foulard islamique. Et puis, il y a une affaire parallèle au niveau de la Caisse primaire d'assurance maladie, également en 2013. Il y a eu une affaire très récemment, en 2015, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, concernant la France, au sujet d'une assistante sociale qui était contractuelle du service public et qui n'a pas été renouvelée parce qu'elle n'avait pas voulu enlever son voile. En ce moment même, il y a une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne concernant une ingénieure d'études en informatique dans une société de services qu'on a licenciée parce que le client de cette société ne voulait pas qu'elle vienne couverte de son voile islamique. Voilà pour la France. Et puis, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme a dû voir 4 affaires en 2013. Également sur ces questions-là. Là, c'est au niveau plutôt des signes d'appartenance religieuse, mais les affaires en ce moment concernent aussi les choix éthiques, les choix de l'action en cohérence avec sa foi. Ils concernent par exemple les problèmes d'éthique liés à l'homosexualité. Donc, il y a eu 2 affaires à la Cour européenne des droits de l'homme en 2013 contre le Royaume-Uni sur ce sujet, on y reviendra plus tard. Donc effectivement, il y a des affaires, on ne peut pas le nier, et elles sont en général fortement médiatisées. Et puis, on constate, et c'est là aussi parfois le malaise, que nous vivons dans une société qui est de plus en plus sécularisée, donc dans laquelle l'expression de la foi, que ce soit la foi chrétienne, la foi musulmane, la foi bouddhique, etc., est de moins en moins bien perçue, et Nicolas parlait de tabou, et donc on voit que dans l'inconscient collectif, la zone de tolérance ou la zone d'acceptation, d'expression des convictions, elle devient un petit peu plus rétrécie. Alors, on parle de zone de tolérance, moi je vais vous parler plutôt du droit. Et puis autour de ça, on a aussi une perte de repères. Et c'est pour ça qu'on devra parler forcément de la laïcité, parce que on voit qu'aujourd'hui la laïcité c'est un peu la valeur refuge, et elle est souvent invoquée à des fins anti-religieuses, c'est-à-dire pour pouvoir ôter l'expression religieuse de l'espace public, parfois aussi à des fins identitaires, pour pouvoir dire la France est laïque, on devrait revenir vers une France catholique ou chrétienne et ôter la visibilité des autres religions, et puis tantôt aussi à des fins, on dirait gallicanes, pour finalement surveiller et encadrer les libertés des croyants. Donc là, on fera aussi le point sur une laïcité au sens juridique, selon les textes, qui est plutôt une laïcité libérale. Voilà, je pense que dans ce contexte-là, effectivement, votre question est bien posée. Et finalement, il faut pouvoir éclaircir les choses pour savoir s'il y a vraiment des risques juridiques avérés dans votre contexte, dans votre entreprise. Et pouvoir dire si voilà, le témoignage de vie, de parole ou de son éthique au travail peut vraiment constituer une faute professionnelle ou non. Finalement, si vous consultez quelqu'un avec une situation ou un conflit, ça sera la question à se poser. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un panorama. D'abord, d'entrer dans des considérations générales pour bien fixer le cadre de la liberté de religion du salarié dans l'entreprise. On définira la liberté de religion et ses limites. On focalisera sur le principe de laïcité et son champ d'application. Après, on décrira les gros mécanismes du droit du travail. Et puis ensuite, on ira un peu plus en profondeur en sélectionnant les manifestations de la foi chrétienne, qui ne sont pas celles d'autres confessions, et en essayant de voir le sens de la mesure. Donc, prière, témoignage et partage en groupe, puisque je crois qu'il y a des associations de partage biblique en entreprise, agir conformément à sa conscience, et voilà, comment gérer éventuellement une situation problématique. Donc, brossons le cadre général. J'espère que vous êtes prêts. Alors, il y a un texte qu'on ne peut pas... Voilà, j'ai choisi celui-là. Il y a aussi des textes de l'ONU, Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international des droits civils et politiques, article 18. Il y a des textes constitutionnels français au niveau de la Constitution. Mais j'ai choisi le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme parce qu'il est le plus précis, d'une part, parce qu'il s'applique directement aussi dans notre droit français, parce qu'il y a aussi une cour de justice, une cour européenne des droits de l'homme qui vérifie sa bonne application, et donc que sa jurisprudence s'applique chez nous. Alors, voilà comment on peut définir au mieux la liberté de religion par l'article 9. Donc, je vais le lire. Liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Voilà, c'est un peu pompeux, hein, c'est du droit. Bon, ce qu'il faut vraiment retenir, là, c'est que la liberté de religion inclut la liberté de manifester sa conviction. Et donc, ce texte vaut aussi dans le cadre du travail. Et dans l'alinéa 2, on voit que cette liberté de manifester sa religion, elle peut faire l'objet de restrictions, mais dans un cadre limité. Avec donc plusieurs critères. Il faut que ça soit prévu par la loi. Donc, nous allons regarder si le code du travail, à l'heure actuelle, prévoit des restrictions. La restriction doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être juste arbitraire du fait de votre supérieur hiérarchique, et elle doit être proportionnée au but poursuivi. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être générale, et les buts poursuivis sont énumérés: sécurité publique, ordre public, santé, morale, protection des droits d'autrui. Bon, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de... les restrictions à la liberté de religion, même dans le cadre de l'entreprise privée, elles sont vraiment cantonnées dans ces critères de cet article 9. Et donc, on a plusieurs affaires et plusieurs jurisprudences qui permettent d'éclairer l'application de cet article. Donc, ça va toujours mieux quand on parle des petites histoires. Je vous parlais tout à l'heure, justement, de l'affaire de l'assistante sociale, donc ça, c'est pour la France, dont on n'a pas renouvelé le contrat dans le centre hospitalier parce qu'elle refusait d'enlever son voile islamique. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé que c'était justifié, parce que dans le cadre hospitalier, évidemment là c'est dans le cadre public, la laïcité s'applique, et la Cour a décidé qu'il fallait protéger le droit et liberté d'autrui, c'est-à-dire des patients et des patients qui viennent dans un cadre public. Donc ça c'était en 2015. En 2013, par rapport au Royaume-Uni, donc ça, ce sont des cas plus proches puisqu'il y a des chrétiens qui ont été concernés, on a eu 4 affaires qui portaient aussi sur le signe. Cette fois-ci, c'était le signe des chrétiens qui voulaient porter une croix. Donc il y avait une employée de British Airways et puis une infirmière, donc dans des contextes différents. L'hôtesse de British Airways, elle a gagné son procès devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que les juges ont estimé qu'elle avait le droit de porter sa croix au nom de la liberté religieuse, et que la société, même si elle voulait juste protéger son image, n'avait pas le droit de la contraindre dans ce sens-là. Par contre, l'infirmière, qui était aussi dans un cadre du service hospitalier, a perdu son procès parce que, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il a été considéré qu'elle ne pouvait pas porter sa croix au travail. Dans deux cas maintenant qui concernent plutôt justement le fait de pouvoir agir conformément à ses convictions, on a d'une part un conseiller conjugal qui a été licencié pour avoir... il avait simplement émis des réserves, parce qu'il ne voulait pas conseiller des couples en thérapie sexuelle, il ne voulait pas conseiller des couples homosexuels en raison de ses convictions. Et donc il a été licencié sur ce compte-là. Et la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le Royaume-Uni avait une marge d'appréciation et pouvait considérer que l'égalité, l'égalité, la protection de l'égalité des couples de même sexe devant un service était supérieure à la protection de la liberté de religion de ce conseiller en relation conjugale. Et dans un autre cas aussi, perdu par une chrétienne qui était agent de l'état civil, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que cet agent d'état civil n'avait pas le droit de refuser de faire les papiers administratifs pour des partenariats civils de personnes de même sexe en raison de ses convictions. Donc on voit qu'il y a des intérêts qui sont mis en balance, liberté de religion, égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle, et qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence est à la fois... assez précise au niveau du test de proportionnalité. Elle regarde vraiment dans les faits si la restriction est proportionnelle. On voit en fonction l'employé de British Airways ou l'infirmière. Donc il y a vraiment un test au cas par cas. Et qu'en même temps, la Cour, parfois, se retranche derrière la marge d'appréciation laissée aux États en disant « Eh bien, le Royaume-Uni ou la France ont le droit d'apprécier quelle liberté ils mettent au-dessus de l'autre. » Donc on est parfois dans une zone encore d'insécurité. Ça, c'était pour vous brosser un peu un tableau européen, je dirais. Et aussi, bien cerner ce qu'est la liberté de religion et ses limites. On va parler maintenant du champ d'application de la laïcité, parce que ça nous permettra d'éviter beaucoup de confusion et de vraiment entrer dans l'entreprise privée. Alors, récemment, il y a un nouvel ouvrage qui a été sorti par la collection Pour les Nuls. J'aime bien cette collection. Hein. Et donc, je l'ai lu là, récemment, La laïcité pour les nuls. Je vous le conseille, c'est Nicolas Cadenne, qui est le secrétaire général d'Observatoire de la laïcité, qui l'a rédigé. C'est un excellent ouvrage. Et voilà ce qui est dit concernant la liberté de religion dans l'entreprise privée. La laïcité ne s'applique qu'à l'État, aux collectivités territoriales et aux services publics. Au sein de l'entreprise privée, on parle de gestion du fait religieux. Vous allez voir, il y a vraiment une différence et il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion dans ces dernières années autour de cette idée de laïcité sur le champ d'application du principe de laïcité. Pour aller plus vite, je vais vous présenter le tabouret de la laïcité parce que la laïcité... En fait, elle s'appuie sur trois piliers. Donc, ce n'est pas Nancy Lefebvre qui le dit, c'est le Conseil d'État qui l'a dit dans son rapport « Un siècle de laïcité » en 2004. Et puis, il y a le Conseil constitutionnel qui est revenu aussi sur ses conceptions. La laïcité, finalement, au sens juridique du terme, donc pas au sens idéologique, elle repose sur trois piliers. Premièrement, la liberté de religion, la liberté de conscience des personnes. Ensuite, la neutralité de l'État, c'est-à-dire la séparation entre les cultes et l'État, et le fait que l'État, les collectivités territoriales et les agents publics, les fonctionnaires, n'ont pas à relayer de position religieuse. Eux doivent être neutres. Et ensuite, si on a ça, on obtient le pluralisme, c'est-à-dire le fait que des convictions différentes peuvent avoir droit de citer en France. Et donc c'est ça aussi l'égalité devant la loi, l'égalité de pouvoir avoir des convictions différentes dans une démocratie pluraliste. Donc on voit bien dans les débats que si on tire, si on coupe un des pieds du tabouret, l'équilibre est rompu. Alors, trois exemples de rupture et de confusion autour de la laïcité dans le cadre de l'entreprise privée. Il y a eu une proposition de loi l'année dernière, et puis bon, elle revient, elle est un peu lancinante, après l'affaire Babylou, qu'il y ait une neutralité religieuse imposée au sein d'entreprises privées. Ça veut dire que là, c'est le pilier de la neutralité de l'État qui est carrément rallongé pour aller vers la société civile. Donc ça, c'est vraiment une erreur et c'est complètement incompatible avec ce qu'on vient de dire sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. On voit bien donc les écueils. D'un autre côté, vous avez peut-être entendu parler de la société PAPREC, qui est un grand groupe, qui lui, dans son règlement intérieur, après la fin Babylou, a mis neutralité obligatoire de tous les salariés neutralité religieuse obligatoire de tous les salariés en tout lieu. Donc là, effectivement, c'est pareil.
Avec quand même une précision, c'est que ils ont obtenu l'accord de leur...
Voilà, effectivement. C'est un accord. Alors, ils ont travaillé pour avoir un accord, les syndicats, etc. Mais au final, voilà, je ne suis pas certaine que ce rapport de proportionnalité, que ce, le test d'exigence, on va le voir avec le code du travail, ait été poussé aussi loin. Je ne suis pas sûre que dans l'avenir, quelqu'un ne pourrait pas gagner un recours contre PAPREC. Mais voilà des confusions qui existent. Effectivement, ce sont des erreurs courantes, et ces confusions-là, alors autre confusion aussi, on a entendu avec tout le débat autour de la loi El Khomri, et le FN qui dénonçait le fait que le communautarisme allait être institué, parce que dans la loi El Khomri, il y avait un article qui reprenait simplement, plus ou moins bien écrit, les principes de l'article 9, en disant qu'effectivement la manifestation des convictions est possible sous la seule restriction de... Et le FN de dire oui, ça y est, on ouvre la porte au communautarisme. Voilà, confusion dans les débats autour de ça. Il faut bien savoir que donc, au niveau de la Cour de cassation, les choses sont bien claires. On l'a vu dans l'affaire Babylou. Ce qui est de l'entreprise privée n'est pas soumis à l'obligation de neutralité. Par contre, si l'entreprise privée gère une mission de service public, à ce moment-là, les salariés sont obligés au principe de neutralité et de laïcité. En fait, en 2013, il y a eu deux affaires. Il y a eu l'affaire Babylou et puis il y a eu l'affaire CPAM, parce que la Caisse primaire de l'assurance maladie est une entreprise privée, mais qui gère une mission de service public. Et dans ce cadre-là, une employée qui portait le voile a été licenciée. Et voilà, la Cour de cassation a bien dit oui, puisque la société gère une mission de service public, dans ce cadre-là, la neutralité est obligatoire. Donc, il faut bien serrer les choses, parce qu'en fait, on peut parler de laïcité de manière très générale, où on peut en parler au niveau juridique de ce qui vraiment prodigue des droits et des obligations envers les personnes. Donc j'espère que ce tabouret vous servira utilement à détecter les confusions qui peuvent exister. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, donc, l'affaire Babylou, on vient d'évoquer rapidement, l'affaire CPAM aussi. Au sens juridique, donc on a une laïcité qui oblige à la neutralité totale religieuse uniquement l'État, les collectivités publiques et les agents de l'État. Donc, et puis on a une laïcité au sens d'une valeur républicaine, c'est-à-dire que oui, on peut dire que nous sommes tous laïcs parce que nous voulons la liberté de conscience, la liberté de religion pour tout le monde. Le pluralisme, l'égalité de tous devant la loi et un État séparé des cultes. Mais l'obligation de neutralité ne vaut que pour l'État. C'est pour ça que je vous ai fait ces magnifiques formes géométriques pour illustrer simplement la liberté de religion, elle est à géométrie variable suivant sa fonction. Si on est dans la fonction publique, on va se retrouver... Alors, du coup, code couleur, le bleu clair... Le bleu clair, c'est le ciel, c'est la liberté de religion. Si on est donc dans la fonction publique, eh bien effectivement, notre liberté de religion est limitée, donc on est dans les ronds, là. C'est-à-dire que voilà, on a notre liberté de religion et à côté, on a notre rôle dans la fonction publique. Bon, on va venir un peu plus détaillé, mais là, je schématise. Si on est dans le cadre du travail, il y a une zone qui est tolérée, une zone d'expression, de manifestation de la conviction qui est tolérée, hein, travail en jaune, foi en bleu, et donc il y a une zone qui va être tolérée. Si on est dans ce qu'on appelle une entreprise de conviction, c'est-à-dire une association cultuelle, moi je suis dans une entreprise de conviction, le CNEF, les GBU, donc ça ce sont des entreprises qu'on appelle de tendance ou de conviction, hein, ça peut être un parti politique, une association humanitaire, vous voyez bien que dans ces associations, si vous n'êtes pas en accord avec les convictions du groupe, c'est même pas la peine de postuler. Hein, sinon, si Lefebvre n'est plus chrétienne, elle s'en va du CNEF, hein, ça c'est clair. Donc, dans ce cas-là, la manifestation, l'adhésion et la manifestation de la religion du salarié, elle est un prérequis et elle est complètement admise. Hein. Sinon, si Lefebvre ne peut pas prier à la réunion de prière du CNEF, ou Michel Razzano au GBU, bon, c'est qu'il y a problème. Donc, vous voyez que, du coup, la liberté de manifester sa religion, elle est différentes suivant les statuts, et donc il ne faut pas tout confondre. Et en tout cas, pour vous, la majorité d'entre vous qui êtes dans les carrés, enfin dans le rectangle, il y a une zone de liberté qui existe. Alors, on en arrive de plus en plus précisément à notre droit du travail français, pour arriver à deux articles de référence. Donc, un peu dans la ligne hein, de l'article 9, on voit que dans le Code du travail, voilà ce qui est écrit donc, dans ces deux articles. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. On va s'arrêter un peu sur cet article d'abord. Donc, on retrouve le vocable hein, de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, et on voit bien que donc nul, en gros vous avez compris qui c'est l'employeur. L'employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit, c'est du cas par cas, c'est en fonction de la personne. La personne qui doit, évidemment, c'est les affaires les plus emblématiques, hein, ôter son voile, c'est parce que, il y aurait des questions de sécurité, c'est proportionné vraiment à la tâche qu'elle doit accomplir, justifié et proportionné aussi. Donc, il y a vraiment une casuistique à l'application de ces articles. C'est très difficile de faire un panorama tout à fait total, et c'est pour ça que la proposition de loi disant neutralité totale dans l'entreprise privée, elle est complètement irrespectueuse des droits de l'homme de manière générale. Et puis ensuite, donc le deuxième article, qui fait référence, hein, c'est du droit, je suis désolée, qui fait référence à un autre article. Donc l'article L1132.1, c'est l'article qui dit qu'on ne doit pas discriminer, on ne peut pas discriminer quelqu'un en fonction de ses convictions. Lors du recrutement, lors de l'accès à la formation, lors des distributions de promotion, etc. On ne peut pas discriminer les personnes en fonction de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, mais aussi de leurs appartenances vraies ou supposées à des religions, ou alors leur apparence physique, etc. Donc c'est le gros article anti-discrimination. Et l'article qui est là, c'est l'exception. L'article 1132.1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut demander, ne peut exiger d'une personne... ne peut traiter différemment une personne par rapport notamment à sa liberté de religion que si cette exigence est vraiment déterminante et légitime. C'est-à-dire que cet article en ce moment va être revu par la Cour de justice de l'Union européenne par rapport à cet ingénieur informatique qui on a demandé d'enlever son voile parce que le client l'exigeait. Et la question, ça va être de savoir, est-ce que l'exigence du client, de dire je ne veux pas avoir une ingénieure informatique d'études qui porte un voile, est vraiment une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée. Est-ce que la société qui l'a licencié est en droit de le faire parce que le client estime qu'il ne veut pas avoir quelqu'un qui est voilé venir chez lui. Est-ce que c'est vraiment légitime ? Et sur ce point-là, la Cour européenne des droits de l'homme, notre Cour a déjà jugé qu'on ne pouvait pas, cette exigence professionnelle ne pouvait pas être fondée juste sur des préjugés. Là, c'était le cas où dans l'armée, on avait dit on n'accepte pas les homosexuels parce que dans l'armée, il y a beaucoup de gens qui sont homophobes, etc. Donc ça a été dit, non, c'est pas parce que dans l'armée il y a des préjugés et de l'homophobie qu'on ne doit pas accepter des recrutements de personnes voilà, qui auraient ce type de mœurs. Donc les choses sont relativement encadrées. Et on va aller un petit peu plus loin. Alors je suis désolée, hein, c'est le droit. Hein, je crois qu'il y a une juriste d'entreprise parmi nous. Donc à partir de ces articles-là, il y a 6 motifs qui ont été élaborés par ce qu'on appelle la doctrine ou la jurisprudence. Et la jurisprudence, pour montrer quels seraient les motifs qui justifieraient une limitation d'expression religieuse. Alors, on a le respect de l'organisation du travail. Effectivement, il ne faut pas que la manifestation de la religion de la personne puisse désorganiser le travail. Là, l'employeur serait en droit d'intervenir. La sécurité et l'hygiène. L'absence de prosélytisme ou d'actes de pression et d'agression à l'égard des autres salariés. L'altération des aptitudes nécessaires au travail, l'organisation nécessaire à la mission du salarié. Voilà, si la manifestation de la religion commence à désorganiser l'équipe et empêcher la réalisation de la mission. Et puis les impératifs commerciaux qui sont liés à l'intérêt de l'entreprise. Voilà, ce sont 6 motifs qui ont été dessinés. Alors par exemple, il y a eu des cas comme ça. C'est quand même beaucoup lié aux pratiquants musulmans. Un boucher qui ne veut plus couper du porc, il a été embauché pour être à la boucherie générale. Il ne veut plus couper du porc, tant pis, il ne remplit plus. Il y a une altération de ses aptitudes nécessaires au travail. Donc, voilà, c'est quelques exemples. Ça, ce sont des critères qui ont été mis en place. Et on va confronter maintenant, c'est la partie la plus intéressante, mais c'est pour la fin, on va confronter tous ces critères aux manifestations que nous, les chrétiens, on estime avoir envie de pouvoir avoir sur notre lieu de travail. Parce qu'on y passe du temps, et parce qu'effectivement, nous sommes cohérents, surtout les GBUciens, et donc nous voulons vivre en cohérence avec notre foi. Alors, j'ai sélectionné pour ma part quelques manifestations. Prier, témoigner, seul ou en groupe, et puis après, agir en toute conscience. Alors, avec tous ces critères en vue, est-ce que vous pensez qu'on est libre de prier au travail ? Eh bien, moi je considère que oui. Parce que la prière, c'est une parole qu'on adresse à Dieu. C'est une manifestation qui est protégée par la liberté de conscience. Elle relève de notre fort intérieur, de notre vie privée. Et donc, elle ne peut pas être interdite, on ne peut pas vous empêcher de penser au travail. Hein ? On l'a peut-être, j'ai un peu survolé au niveau de l'article 9, mais on voit que la liberté de penser, la liberté de conscience, elle est totale. Par contre, la liberté de manifester, le fort intérieur, il est entièrement protégé, mais la liberté de manifester à l'extérieur, sa religion, c'est là où il peut y avoir des limitations. Donc, si vous priez en vous-même, il n'y a pas de problème, évidemment. Et si vous ne troublez pas le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire que voilà, vous priez, mais vous priez discrètement, et vous priez sans « Alléluia » ou « grande effusion du Saint-Esprit », désolé Saint-Esprit. Donc il faut vraiment penser à ça. Et l'employeur peut ou ne peut pas, c'est à sa discrétion, mettre un lieu de prière à votre disposition. Et là, ça sera évidemment à lui de faire le test de savoir si oui ou non, c'est cohérent avec la vie de l'entreprise. Donc oui, un accord d'entreprise, une convention collective, un règlement intérieur ou un aménagement du contrat de travail pourrait prévoir des temps pour la prière, mais ça serait temporaire et ça serait de toute façon lié à l'appréciation des impératifs de l'entreprise par l'employeur. Alors nous, on est moins dans... Enfin, vous voyez, c'est plutôt la prière collective des musulmans hein, qui est concernée là. Pour une prière chrétienne, je pense que voilà, vous pouvez prier tranquillement, sauf si, évidemment, ça perturbe votre efficacité au travail. Mais en général, la prière permet de reconcentrer. Alors, libre de témoigner. Alors, effectivement, Nicolas a déjà bien débroussaillé les choses. Les discussions au travail, normalement, elles sont libres. Hein. Les salariés ont une liberté de pouvoir s'exprimer. Il y a une partie qui relève de leur vie professionnelle et une partie qui relève aussi de la vie privée, du cadre de l'amitié avec les collègues. Et donc, il y a quand même une liberté de parole. Et d'ailleurs, en jurisprudence, il a été décidé qu'un règlement intérieur ne peut simplement pas interdire certains sujets de discussion. On ne pourrait pas voir interdiction de parler de religion, de politique ou de choses qui ne concernent pas le service. Les employés ont droit de pouvoir discuter de ces choses. Ça serait vraiment excéder les pouvoirs de l'employeur qu'un règlement intérieur prodigue ce type de clause. Par contre, l'employeur, lui, il doit veiller au bon déroulement de la période de service. Et donc, si cette liberté de parole est utilisée avec excès, avec abus, à ce moment-là, il peut intervenir. Et c'est là où, par exemple, voilà, je vais vous citer des cas concrets, mais c'est des choses qu'on a vues dans la jurisprudence. Voilà, bon, quelqu'un qui exerce des pressions, qui parle tout le temps, un zèle exagéré, tout le temps de sa foi au travail, qui du coup harcèle ses collègues, c'est-à-dire va au-delà et ne respecte plus les libertés des collègues, effectivement, cette personne-là pourrait être accusé de prosélytisme et simplement licencié, ou quelqu'un qui utilise des moyens de l'entreprise pour des fins prosélytes. Alors j'utilise la messagerie et j'envoie à toute l'entreprise Jésus est bon, convertis-toi ou l'enfer c'est pour demain. La messagerie, l'intranet, la photocopieuse. Photocopieuse, hein, surtout maintenant elles ont des mémoires, je crois. Ouais, il faut quand même avoir conscience que voilà, on est au travail pour travailler, pas au travail pour évangéliser. Donc effectivement, il faut faire attention à ces petites choses qui peuvent, en s'accumulant, si on a un comportement trop à la marge, oui, constituer un petit dossier. Et puis, je crois qu'il y a aussi une gradation à établir, c'est-à-dire que durant le travail, effectivement, on est là pour travailler, pas pour discuter, d'une part. Et puis ensuite, dans les temps de pause, là, on sort un peu de sa vie professionnelle, on est dans un cadre plus privilégié, il y a une plus grande liberté, sous réserve de ne pas troubler l'entreprise. Et puis après, en dehors des temps de pause, quand on a des collègues qui sont devenus nos amis, bon, ben là, la liberté, elle est complète. Il faut faire aussi attention au rapport hiérarchique. Parce qu'effectivement, quand on parle soit de harcèlement ou de ce qu'on appelle prosélytisme abusif, ce sont des cas où les personnes vont user de leur position hiérarchique pour enclencher l'adhésion des personnes. Donc effectivement, attention à cet abus de position dominante envers les subordonnés. Et puis, il faut savoir aussi que vous pouvez... Enfin, si vous êtes employeur, je ne crois pas qu'il y en ait, mais vous pouvez aussi être en situation où quelqu'un lui-même exerce des pressions envers vous ou manifeste sa foi au travail et essaye de vous convertir, vous. Et à ce moment-là, l'employeur, lui, il a une obligation de protéger ses salariés dans le cadre pour veiller à leur sécurité, leur santé mentale et physique et surtout les prévenir des cas de harcèlement. Donc il y a eu un cas où en fait les salariés étaient envoyés en séminaire, et dans ces séminaires, c'était en fait la femme de l'employeur qui était un peu gourou et qui faisait des séances d'auto-culpabilisation, etc. Bon, les salariés se sont rassemblés et ils ont porté plainte contre leur employeur parce qu'ils ne les avaient pas protégés contre ce type d'agissement. Alors bon, voilà, petit exemple pratique, est-ce qu'on peut mettre un verset biblique ou afficher un calendrier dans son bureau? Alors voilà, vous êtes souvent dans open space ou dans des bureaux plus feutrés. Là, ça va dépendre peut-être du règlement intérieur sur ce qu'on peut faire de son espace de travail. Mais c'est pareil, voilà, c'est une question de mesure, savoir ce qui va troubler l'entreprise, ce qui va choquer. Une affiche hyper voyante, bon ben voilà, dites-vous que si quelqu'un d'une autre confession faisait la même chose, comment réagiriez-vous ? Ou alors un petit calendrier discret. Voilà, il faut savoir avoir le sens de la mesure, c'est un peu de la casuistique, mais je crois que là, il faut avoir de la sagesse. Donc voilà, des comportements, il y a eu de la jurisprudence sur des comportements hypra-prosélytes, quelqu'un qui travaillait dans l'hôtellerie et qui mettait des Nouveaux Testaments un peu partout, alors que ça ne lui était pas demandé. Donc, cette personne a été licenciée. Ou un animateur, témoin de Jéhovah, qui était un animateur du centre de jeunesse, qui voilà, faisait des lectures bibliques, etc. Voilà, là, enfin, vous comprenez quand même que c'est utiliser les moyens à des fins qui ne sont pas ceux de la mission et du contrat de travail. Je crois que c'est important aussi de replacer les choses dans ce cadre-là. Et également par rapport au client, c'est-à-dire que si vous êtes en relation client, le client contracte pour une certaine prestation, ne contracte pas pour d'évangélisation. Donc voilà, ça se joue après dans les relations, effectivement, et dans un sens de la mesure. Hein, donc dans la jurisprudence, effectivement, on a assez peu, mais c'est du coup des choses qui sont un peu caricaturales. Voilà, le cas de l'hôtel, le cas de... il y a aussi le cas de l'église de la Scientologie, hein, où il y a eu aussi le prosélytisme abusif. Voilà, donc finalement, dans la jurisprudence, il y a assez peu de cas, mais ils montrent des contextes un peu caricaturaux, et j'espère que vous n'êtes pas du tout dans cela. Je pense que les bons conseils de Nicolas vous ont porté à cette sagesse relationnelle qui fait que le témoignage, il est plus que le dire, que le tapage, il est un peu plus fin. Après, voilà, il faut bien comprendre le respect des droits d'autrui. Et que finalement, moi je trouve que le meilleur test, c'est se dire, voilà, comment moi je recevrais cette manifestation, ce témoignage de la part de quelqu'un d'autre. Musulman, bouddhiste, un athée, un laïcard, un militant politique, voilà. Est-ce que je me sentirais respectée ? À partir du moment où je me sentirais respectée, déjà, voilà, je crois que c'est un bon test, c'est un peu assez pratico-pratique. J'appelle ça le test du miroir. Et puis maintenant, voilà, la liberté de partager en groupe. Alors effectivement, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut faire un petit groupe biblique dans l'entreprise ou pas. Moi, je dirais pourquoi pas. C'est-à-dire que, effectivement, il faut à ce moment-là bien choisir, enfin voir les considérations voilà, pratiques. Est-ce que ça serait quelque chose de compatible avec le travail ? Bien choisir l'heure, le lieu, des modalités qui ne perturbent pas l'équipe ou le travail. On pourrait même aller jusqu'à demander éventuellement une salle à l'employeur, qui serait là complètement, ça serait complètement discrétionnaire de sa part, et que s'il y avait un problème, voilà, je pense que l'autorisation serait complètement retirée. Il faut aussi penser à ce qui va se passer à l'intérieur du groupe. On l'a dit, les relations entre collègues, ce sont des relations long terme. Pas juste un one shot, je fais mon action d'évangélisation et après je repars. C'est tous les lundis matins jusqu'au vendredi, je vais voir les mêmes personnes dans un contexte où il faut qu'on produise, il faut qu'on soit efficace. Donc il faut que si groupe il y ait vraiment liberté aussi de venir, de ne pas venir, respect de la confidentialité, respect du secret professionnel, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, même si on est en prière, etc. Donc il y a certainement... Enfin, je pense que d'autres intervenants auront un apport là-dessus, mais des règles à respecter au sein du groupe. Moi, j'insiste surtout sur le côté de la liberté. Il faut vraiment que les personnes ne se sentent jamais contraintes. Voilà, tu viens pas au groupe une fois, tu viens pas au groupe deux fois, ben voilà, tant pis, tu es libre. Parce que justement, sinon, on risque de tomber dans le harcèlement, enfin dans ce volet-là. Et puis, évidemment, un cadre qui ne trouble pas l'activité de l'entreprise. Ça, c'est peut-être le plus compliqué, parce qu'il faudrait un positionnement qui ne crée pas de remous. comme justement on est dans un cadre de sécularisation et bon, légèrement anti-religieux, c'est beaucoup plus difficile de vouloir créer une initiative chrétienne, parce qu'il peut y avoir un impact négatif, des commérages, une réputation qui est entachée, ou des troubles dans les relations d'équipe. Donc voilà, plusieurs zones de vigilance. Et puis, une autre... un autre aspect, c'est celui d'agir conformément à sa foi. Est-ce que je peux refuser d'accomplir une tâche qui fait partie de mon contrat de travail, qui fait partie de ma mission, mais parce que voilà, dans mon fort intérieur et dans mon fort de chrétien, je ne me sens pas de pouvoir le faire. Ça, c'est une question voilà, qui risque de venir pour vous. Il y a d'abord dans le contrat de travail un principe de bonne foi. C'est-à-dire qu'on doit exécuter son travail, exécuter le contrat de bonne foi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste lâcher une tâche qui vous incombe sans au moins prévenir l'employeur ou adresser cette question. Donc, si ça vous arrive, le conseil, c'est de pouvoir aller voir l'employeur ou votre N+1 et en parler. Parler de votre motif de conscience. En général, quand il y a une relation, quand il y a un cœur à cœur, les gens comprennent mieux pourquoi il y a des choses qui peuvent coincer. Mais je ne vous conseille de ne pas quitter votre tâche, de ne pas inexécuter votre contrat, sinon ça sera une faute professionnelle évidente. Par contre, voilà, principe de bonne foi, c'est-à-dire que voilà, je vois que là c'est difficile, j'essaye de voir si il peut y avoir une compréhension, si un autre collègue peut prendre ma tâche éventuellement. Et avoir un accord qui peut être ponctuel ou permanent. Ça, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de courage, parce qu'il faut savoir, et souvent on nous pose la question, est-ce qu'il y a une clause de conscience pour les salariés ? Vous connaissez le mécanisme de la clause de conscience, donc l'objection de conscience, c'est mieux connu, dire voilà, ben, en toute conscience, ça je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire mon service militaire, je ne peux pas... participer à un IVG, je ne peux pas participer à un mariage de personnes de même sexe, etc. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que de manière générale, et vous l'avez vu dans le code du travail, il n'y a pas de clause de conscience, pas de mécanisme soupape pour les salariés, de manière générale. Ces clauses de conscience, elles n'opèrent que pour des professions et des cas qui sont inscrits dans la loi. Sont très précis. Pour les journalistes, par exemple, la direction ou l'orientation du journal change, parce que là, on est aussi dans une entreprise de conscience, de conviction, de tendance. Pour les avocats, qui ont une liberté d'accepter ou non des missions, et pour certains postes à haute responsabilité, quand effectivement l'orientation de l'entreprise change, parce que là, effectivement, on est dans un domaine où il faut avoir une forte adhésion avec le projet et l'image de l'entreprise pour rester. Mais hormis ces cas-là, on est dans le cas général où on a signé un contrat, on doit exécuter sa tâche. La seule soupape, c'est encore un élément d'ordre public, c'est-à-dire que si votre santé, par exemple, ou votre sécurité était mise en jeu, à ce moment-là, vous pourriez agir. Il y a une jurisprudence sur ce cas. Elle est assez parlante, c'est le cas d'un employé de conviction juive qui a refusé d'aller en mission au Moyen-Orient pour des raisons de sécurité évidentes. Donc là, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait un motif d'ordre public qui permettait à cette personne de décliner la mission. Et donc ces cas de conscience sont assez compliqués à gérer finalement. Alors, plus ou moins pour conclure, je dirais qu'il faut gérer ces situations avec sagesse, avec mesure. Les cas évoqués étaient un peu caricaturaux. Il faut gérer cela parce qu'évidemment, il faut comprendre le risque juridique. Le risque juridique, c'est quoi ? C'est éventuellement de commettre une faute professionnelle qui peut être légère, on a juste un avertissement, qui peut être grave ou lourde, et là on enclenche d'autres sanctions. Ça peut être le blâme, la mise à pied, la mutation, la rétrogradation, le licenciement pour cause réelle et sérieuse, ou le licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde. Donc là, on a toute la panoplie. Il faut savoir qu'il y a des procédures. Hein. Donc pour que ça s'enclenche, il faut quand même que l'employeur il enclenche une procédure qui est réglementée. Voilà, avec une convocation, un conseil de discipline, des sanctions et une possibilité aussi de recours au conseil des prud'hommes et après en appel jusqu'à la cour de cassation. Donc il faut comprendre aussi voilà, dans quel environnement juridique on se situe. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, il y a l'espace du fort intérieur. On peut penser ce qu'on veut, on peut prier ce qu'on veut, on peut être ce qu'on veut à l'intérieur. Maintenant, dans le fort extérieur, il faut savoir que ce qui sort de nous aura un impact et arriver à mesurer cet impact. Sachant que la liberté est toujours le principe. Hein, pour qu'il y ait une restriction, il faut que l'employeur puisse justifier qu'il a raison dans ce sens-là. Et je dirais que le risque, il se perçoit parce qu'il y a des éléments qui sont contrôlables. C'est-à-dire, vous allez contrôler ce qui va sortir de vous. Par contre, le problème, c'est que vous ne contrôlez pas toujours ce que les tiers vont en faire. Comment vos collègues vont réagir le jour où vous leur dites « Ah ben, on a ouvert un groupe où je t'invite à tel truc, ou je te donne cette libre. » Comment est-ce que, voilà, certains vont très bien réagir, d'autres vont surréagir. Là, récemment, j'ai eu le cas d'une personne qui était dans la fonction publique, qui un jour a fait une simple remarque, et depuis, elle est harcelée par un collègue de confession musulmane, et c'est juste terrible. Et elle est mise sous discipline pour cette remarque-là, alors que c'est lui qui la harcèle, donc on rentre dans une procédure, voilà. Ça arrive, c'est rare, mais il faut savoir que voilà, les tiers sont imprévisibles. Et puis, évidemment, si... Alors là, désolé, hein, c'est un peu, si vous êtes dans le cadre d'un conflit professionnel, essayez d'entamer d'abord le dialogue. Ne gardez pas ça longtemps pour vous, parce qu'une souffrance professionnelle, c'est très mauvais pour sa vie personnelle. Donc entamez le dialogue avec les syndicats, éventuellement, hein, les instances qui sont là aussi pour soutenir les salariés. Prenez tout de suite un conseil juridique en amont. C'est-à-dire, si vous êtes convoqué à un conseil de discipline, il vaut mieux déjà avoir pris conseil, savoir comment présenter votre cas. Et puis après, il faut user de discrétion. On l'a vu dans certaines affaires, là c'est encore pour une fonctionnaire, peut-être que vous avez entendu parler de l'affaire Lalanne, une fonctionnaire chrétienne, qui a distribué à l'occasion de Noël un petit cadeau à certaines des personnes qu'elle affectionnait. Et dans ce petit cadeau, il y avait un calendrier avec juste un verset, l'adresse de l'église. Et à partir de là, voilà, il y a eu quelqu'un de l'administration qui l'a dénoncé. Il y a eu tout un pataclan. Et Madame Lalanne a réuni ses amis, un collectif. Et il y a eu beaucoup de presse autour de ça. Et le problème, c'est que... dans la procédure d'urgence, la procédure de référé, les juges ont considéré que, oui, il y avait que le fait qu'elle ait médiatisé l'affaire constituait un trouble au service. Donc attention dans l'usage des réseaux sociaux, des médias, etc. sur ces sujets-là. Et surtout, entourez-vous d'un soutien moral important. Désolée, c'est une note peut-être un peu grave, mais je pense que la journée nous permettra de rebondir. Et j'aimerais rebondir, moi, sur un message positif. Là, effectivement, hein, je suis obligée, c'est mon job, hein, je suis juriste, donc d'évoquer les risques, etc. Mais je voudrais évoquer aussi un témoignage personnel. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais moi-même juriste à la direction des affaires juridiques et fiscales à HSBC. Et de fil en aiguille, avec une collègue... une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, on a créé un groupe d'études bibliques dans les années 2000. À la pause déjeuner, on se retrouvait soit à la cafétéria, Cœur de Défense, hein, soit cafétéria sur les Champs-Élysées, parfois on allait aussi ensemble dans une chapelle, la chapelle de la Défense, écouter des conférences, etc. Et je n'ai pas, pourtant j'étais juriste, mais je n'ai pas pensé faire quelque chose d'illégal. On a même prié ensemble, je me souviens, une fois, c'est plutôt des échanges, débats, discussions, mais on a aussi prié ensemble. Notre groupe n'a jamais perturbé personne ni rien. C'était complètement libre de venir ou de ne pas venir. Il m'est arrivé aussi de donner, parce que je chantais à l'époque dans un groupe chrétien, de donner mes CD à l'occasion de Noël à mes chefs, mes supérieurs. Et je pense qu'en fait, c'est la relation qu'on entretient avec les collègues qui fait ce témoignage et qui, je dirais, garantit, qui rajoute une protection contre tous ces risques juridiques. C'est-à-dire que le droit est quand même protecteur des salariés, mais je pense que notre attitude, notre éthique de vie et de profession, elle est notre protecteur, peut-être un peu plus que le droit positif. Donc moi, je vous invite à être conscient de votre milieu, du milieu juridique, des contraintes juridiques dans lesquelles vous êtes, mais en même temps, à être conscient aussi de ce que vous servez le Christ, dans la manière dont vous travaillez, dans la manière dont vous interagissez, et qu'effectivement, vous pouvez aussi changer certaines choses, et que ça se joue dans cette relation profonde. Voilà ce verset de 1 Pierre 3,15, avec douceur, et quand on vous demande les raisons de votre espérance, je pense que c'est une des clés au-delà de tous ces textes. Merci.